Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers, proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Aujourd'hui, il ne trouve de goût qu'à ce qui lui fait du bien. Le titre de cette deuxième rencontre est de Nietzsche, auteur cher à Philippe Solers. Il le cite souvent, notamment dans un vrai roman, ses mémoires généreuses. Il l'a pioché dans son exemplaire, son propre exemplaire d'Ecce Homo, lu et relu, tout dépenaillé. Philippe Solers qui aime par-dessus tout être seul, mais ne laisse pas passer les occasions de s'amuser. Voyons encore ce qu'en dit Nietzsche, même citation. De tout ce qu'il voit et entend, de tout ce qui lui arrive, il sait d'instinct tirer profit, conformément à sa nature. Il est lui-même un principe de séduction. Et plus loin, il examine la séduction qui s'approche, il se garde bien d'aller à sa rencontre, il ne croit ni à la malchance ni à la faute, il sait en finir avec lui-même, avec les autres, il sait oublier, il est assez fort pour que tout doive tourner nécessairement à son avantage.
Il y a la question des voix. Il nous manque des enregistrements de Proust et de Beckett. On connaît simplement le récit qu'a fait Morand de la voix de Proust. De même pour Beckett, qui a toujours refusé d'être enregistré. Au contraire de Joyce, qui a suscité des enregistrements extraordinairement importants et qu'il a voulu, très révélateurs. Vous avez quand même la voix suintante de Gide.
Très longtemps, mes faux monnayeurs.
Celle rauque et ironique de Mauriac.
Je ne suis pas content de mon œuvre. Il y a, si vous voulez,
celle mélo-démago d'Aragon. Bon. Celle en surplomb, un peu précieuse,
Freud m'a
de
reçu
Breton.
En 1921 à Vienne, et bien que par un regrettable...
C'est extraordinaire de voir comment ces gens parlaient encore avec des voix du 19e siècle. Si vous prenez la voix d'Apollinaire récitant un poème, il vous le récite. « Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. » C'était la déclamation 19e siècle. Celui qui a cassé ça, c'est évidemment Céline.
Le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a.
Je reprends. Celle en surplomb un peu précieuse de Breton. Celle surjouée et passionnelle d'Artaud. Enregistrement pour en finir avec le jugement de Dieu, scandale à la radio.
Avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort longue.
Celle emphatique et bousillée de Malraux.
Depuis la forêt noire jusqu'à la Baltique.
Celle très douce et comme effacée
la pensée
de Bataille.
La sensibilité.
Celle directe et enfin moderne de Céline. Celle éblouissante du musicien Joyce, celle sèche et décapante de Sartre, comprenez, c'est un con, celle hystérique de Duras, saccadée,
et tout est comme si Dieu existait,
celle suave et sinueuse de Deleuze, quand on observait Deleuze qui se laissait pousser les ongles très beaucoup, un peu comme sa voix. Celle détimbrée de Foucault, en effet, très révélatrice.
La folie qui était une expérience relativement peu importante.
Celle soucieuse de Derrida. Celle, enfin, retorse, aux aguets, caustique de Lacan, ce grand professionnel comique, ce qu'on ne dit pas assez. Il y avait un séminaire de Lacan, ça pouvait être du grand Molière. Un peu à son insu, mais c'était très drôle. Ajoutez à ça le maniérisme chinois de Poulenc,
comment? Vous trouvez qu'il fait beau dehors?
La véhémence de Genet, admirable voix, ça, on a eu une amitié assez brève, mais intense. La péroraison de Cocteau. Et la voix intériorisée de Heidegger. Et vous avez le grand répertoire du XXe siècle. J'avais la plus grande admiration pour lui sur le plan politique. Cela dit, je crois qu'on le sous-estime sur le plan de romanesque, parce qu'il aurait appelé Thérèse d'Esquirou, qui est un mauvais titre à la 19e, il l'aurait appelé Poison. C'est un livre, je vous assure, j'étais chargé, je ne sais plus, de faire un article, je me suis dit, je vais m'embêter à relire un Mauriac pour voir comment il faisait, puisqu'il allait... Et de la première page à la dernière, il y a quand même énormément de talent.
Un homme plein d'humour, ce qui ne pouvait manquer de vous plaire.
On était grave quand il fallait l'être. Enfin bon, lui, parce que quand même, c'était l'époque où il était très injurié, très insulté, où il était obligé de changer de domicile, comme Sartre d'ailleurs, parce qu'il y avait des attentats. Sartre était plastiqué rue Bonaparte, vous savez. Bon. Il y avait une extrême droite extrêmement violente. Hein, attention. Je ne suis pas sûr du tout qu'elle ait disparu. Je ne suis pas sûr du tout que ce populisme violent qui forme un des fonds de ce pays ait vraiment disparu. Ça peut reparaître d'un jour à l'autre, je vous assure. Il faut faire très attention avec les Français, ou du moins ce qu'il y a dessous. Voilà, donc Mauriac, oui, c'était quelqu'un de généreux, de très drôle.
Qui a beaucoup apprécié votre premier texte, vous l'avez connu,
oui,
vous aviez 21 ans à peine.
Oui. Il a écrit dans l'Express, puis après ça a été Aragon, voilà. La célébrité de gens comme Mauriac ou Sartre à l'époque, c'était tout à fait, on ne verrait plus ça aujourd'hui. Les gens s'arrêtaient, Sartre allait sur le boulevard Montparnasse vers la coupole. Bon, tout le monde s'arrêtait pour voir passer cette petite boule effervescente, presque aveugle, etc. Il m'a beaucoup impressionné lorsque je l'ai vu, parce qu'il m'a parlé pendant une heure de son Flaubert, j'aurais dû prendre des notes. Bon, mais Mauriac, c'était quelqu'un... Là aussi, c'était, alors, cher maître, c'est sûr, tout le monde arrêtait. Voilà.
Donc, une voix inimitable, évidemment.
Écoutez, je vais vous dire...
Imiter.
Je vais vous dire exactement ce que je pense de Philippe Solers. Ce garçon qui peut tromper énormément par son apparence. En réalité, c'est quelqu'un de très sérieux, ça serait fondamental. Vous verrez.
Ce qui me frappe, c'est l'invasion de la littérature par la philosophie aujourd'hui. Je veux dire que c'est vraiment l'époque de Jean-Paul Sartre. Et quand je dis cela, ne croyez pas du tout qu'il y ait la moindre parole, que je donne le moindre son péjoratif à ma réflexion, car je sais tout ce que l'on doit à Sartre et tout ce qu'il a d'admirable. Je veux dire que il n'y a plus de pommier qui donne des pommes, ni de prunier qui donne des prunes. Il y a des pommiers qui réfléchissent sur la manière de donner son fruit.
Mais Aragon, je peux vous limiter aussi.
Aragon, vous êtes très sévère avec lui, souvent.
Oui, un peu, mais enfin, oui, parce que le narcissisme, alors, de toucher.
Et avec Elsa, encore plus.
C'était effrayant, oui.
Aragon, imitez-le.
Tu comprends, petit. Tu comprends, tu sais. Le communisme, c'est une affaire de snobisme. Tu comprends, c'est très, très. Oui. Donc, Aragon, je le raconte, c'est oui, mais c'est quelqu'un qui, vous arriviez chez lui, il a été extraordinairement généreux avec moi, il a eu un tombereau de fleurs, il fallait que j'enlève toutes ces fleurs, que je fasse autre chose, sans quoi je serais mort dessous. Mais vous arriviez chez lui, alors il commençait à vous lire des poèmes.
Et, les siens ou d'autres
Non, les siens, bien sûr.
Les siens.
Bien sûr. Et alors il commençait, c'est pas avec cette diction, il faut voir les voix. C'est tout.
Vous salue ma France aux yeux de tourterelle, jamais trop mon tourment, mon amour, jamais trop. Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle, sol semé de héros, ciel plein de passereaux. Je vous salue ma France où les vents se calmèrent, ma France de toujours, que la géographie ouvre comme une paume au souffle de la mer, pour que l'oiseau du large y vienne et se confie. Je vous salue, ma France, où le peuple est habile à ses travaux qui font les jours émerveillés et que l'on vient de loin saluer dans sa ville. Paris, mon cœur, 3 ans vainement fusillé, heureuse et forte enfin, qui portait pour écharpe cet arc-en-ciel témoin qu'il ne tonnera plus. Liberté dont frémit le silence des harpes, ma France, d'au-delà le déluge, salut.
Donc Aragon, mais oui, il vous asseyait très gentiment et il commençait à vous lire interminablement ses poèmes. Comme quoi vous auriez pu sortir, aller prendre un verre au café du coin, revenir, il aurait été toujours là. Je pense qu'il devait y avoir un miroir d'ailleurs. Voilà. Donc on était là pour...
C'était à ce point, parce qu'Aragon, je suis assez frappé. Très souvent, finalement, on rencontre des gens qui aujourd'hui, je ne sais pas, mais sont comme ça, très sévères ou moqueurs, avec lui et avec Elsa aussi.
Bah écoutez, Elsa, c'était autre chose. Elle était là en surveillante, embusquée, et elle entrait de temps en temps dans le studio, enfin l'appartement où Aragon travaillait. Je me suis toujours demandé si elle voulait savoir s'il ne se passait pas quelque chose d'un peu trop sexuel avec les, je sais pas, des jeunes poètes peut-être qui passent. Ouais. Puisqu'à la fin, quand même, Aragon a laissé place. Un masque nouveau. Enfin, bon, non, je vais vous dire ce qui a été déterminant, c'est qu'un jour, elle me dédicace un livre, alors à Philippe Solers, et elle met maternellement. Et ça, pour moi, c'est terminé. Taxi, au revoir.
Je dois vous dire que j'ai été assez étonnée par une question d'une amie à moi, qui est la femme d'un peintre qui l'a beaucoup peint, elle a servi de modèle à la majorité de ses tableaux. Elle m'a dit, comment est-ce que ça ne te gêne pas d'être tout le temps présent dans des poèmes d'amour? Je lui ai répondu, toi, ça ne t'a pas gêné d'être peinte, habillée et nue par ton mari. C'est exactement la même chose, parce que ça s'arrête là. Ce que le peintre veut dire, et après tout, assez extérieur. Les véritables relations du peintre avec son modèle ne sont pas peintes. Pas plus que dans la poésie d'Aragon ne sont peints nos rapports.
Nos œuvres romanesques croisées, pour nous deux, seront comme un lien indestructible dans les bibliothèques, comme une manière de monument où nous serons pour toujours, ainsi que le dit Elsa, deux gisants. Et que ceci que je reprends directement à sa lèvre soit ici la démonstration de ce que je dois à celle dont ma gloire sera d'être pour les autres le fou.
Vous admirez Aragon l'écrivain, le romancier,
mais
le
Aragon,
poète.
Aragon, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a eu ou qui a toujours, parce qu'il ne faut jamais mettre l'imparfait dans ces choses-là, du génie. C'est d'autant plus intéressant d'étudier son cas. Car je vous assure que les premiers livres, enfin, l'activité surréaliste, et puis les livres, là, notamment Défense de l'infini, le libertinage, le paysan de Paris, etc., ce sont des livres absolument magnifiques, magiques. J'ai deux dédicaces qui sont pour moi précieuses comme moments de reconnaissance. C'est d'abord la plus importante pour moi, celle d'André Breton, c'est l'envoi des manifestes du surréalisme, parce que j'avais écrit tout de suite à Breton pour le rencontrer. Je lisais les revues surréalistes pour savoir un peu comment on pourrait faire. Et donc c'est à Philippe Solers, Aimer des faits, F-E-E-S. C'est quand même un connaisseur, paraît-il. Et l'autre est d'Aragon, c'est un tiré à part qui s'appelle Une vague de rêve. C'est un texte surréaliste admirable, d'ailleurs. Il s'en recommerce. Et il m'écrit un machin de la part d'un de ses cadets. Voilà. J'avais 22 ans, oui. Donc je devais faire impression, mais c'était tout à fait une impression fausse. Thank you.
Et notre rencontre, on est toujours sur cette même époque de vos premières années à Paris, de cet éblouissement quand même pour cette vie intellectuelle perdue aujourd'hui. Non,
pas du tout.
Pas éblouissement.
Au début, non. J'étais très sauvage, très solitaire, très... Non, non.
Mais impressionné fallu... par ce qui se passait à Paris,
alors,
le
après,
sentiment d'être quelque part quand même.
Crée, après, je, avec des, voilà, je fais cette fameuse revue.
Oui, ça c'est bien plus tard, mais je parle de vos premières années.
24 ans.
D'accord. Autre rencontre, et là vous alliez assez court tout simplement, et vous n'étiez pas très nombreux, pas assez court, mais à des lectures qu'il donnait, Francis Ponge, beaucoup plus
alors,
discret Ponge, que les deux précédents.
Ponge a été très important. J'habitais à l'époque une chambre d'étudiants, boulevard Raspail, et en face, de l'autre côté, c'était l'Alliance française, et je passe devant et je vois que M. Francis Ponge donne des conférences à 5 heures de l'après-midi. Bon, Ponge quand même, j'avais lu un peu quand même. Et tiens, je vais aller voir. Il y avait 7 ou 8 personnes. C'était un moment pour lui de très grand isolement, matériel, pas d'argent, très peu, mangeant peu, impeccable. Là, jamais vous n'auriez deviné la misère, dandy, hein, aristocratiquement. Bon. Il était totalement isolé. Très mal vu parce qu'il avait quitté le Parti communiste à la rentrée, si je peux dire, Aragon, donc censure. Paulan, la NRF, très ami, mais en même temps censure, ou jalousie, des choses comme ça. Les jalousies littéraires, mon Dieu, mon Dieu. Et puis, il avait eu quand même ce grand article de Sartre dans Situation 1 qui l'avait porté. Là où il était, mais il était vraiment tout à fait isolé. Et donc là, je me suis dit, puisqu'il est là, je vais lui montrer le petit griffonnage que j'avais fait, comme ça. Hein, voilà. Il les a transmis à Paulan, ça a commencé comme ça. Voilà.
Où est-ce que je place la poésie? Eh bien, comme je l'entends, il est possible qu'elle se trouve ailleurs que dans les recueils poétiques, peut-être dans certains textes plus modestes ou plus acharnés, enfin, dans des textes de recherche, peut-être.
Et vous êtes resté son ami jusqu'à sa mort, je crois.
On est resté très amis, on s'est brouillé lorsqu'il a été un petit peu trop réactionnaire, je crois, oui. Bon, j'étais pas... Oui. Enfin, très ami, j'étais très jeune, j'ai fait une conférence sur lui à la Sorbonne. Bon. Non, je voulais absolument... ses livres n'étaient pas rassemblés. Maintenant, il est en Pléiade, c'est fait. À l'époque dont je vous parle, il n'était pas question qu'il y ait de Pléiade. Georges Bataille, d'ailleurs, il a fallu attendre 40 ans avant que les romans soient en Pléiade. Je vous donne la Pléiade parce qu'on parle ici chez Gallimard. Comme la Pléiade, c'est quand même une... Enfin,
pléiadiser, vous avez
une sanction,
dit.
Oui.
C'est un verbe que vous avez inventé, la pléiadisation.
Mais Bataille ou Artaud, c'était vraiment des gens... maintenant, vous me dites, oui, star, plus père... J'en suis pas si sûr, d'ailleurs. Je ne suis pas si sûr que ce soit vraiment reconnu. C'est en Pléiade, soit. Mais la seule grande question, à mon avis, de notre temps, hein, plus que tous les embarras sociaux, psychologiques, les romans familiaux et ce qui se passe sur la planète en état de décomposition et de recomposition désordonnée, c'est qui sait encore lire.
Alors, on est ici, on l'a pas dit, dans votre bureau chez Gallimard, minuscule bureau, comme il se doit, mais vous n'êtes pas le premier à occuper, et prestigieux bureau, évidemment, donnant sur agent. Vous savez par qui il était occupé avant vous?
Il paraît que c'est Camus, je crois.
Ah oui.
Nous sommes ici sur la terrasse dite des Cardinaux. Oui.
Voilà, avec un petit jardin qu'on aperçoit, la rue de Beaune, très connue. Camus, c'est drôle parce qu'il était très fier de son bureau.
On m'a
chez Gallimard, très heureux.
On m'a dit, c'est peut-être faux, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais, je ne sais
mais
pas.
En tout cas, il n'était pas beaucoup plus
en
grand.
En tout cas, si vous avez une oreille sur les spectres, les fantômes, qui sont plus vivants que les vivants, ici, c'en est plein.
Hein, ah oui.
Vous croisez tout le monde dans la nuit.
C'est
la
très
nuit,
clair.
C'est vraiment la nuit, les jardins de Gallimard, vous ne pouvez pas savoir. Marcel Proust, Céline, oh là là.
Quand je vois un livre, on me demande ce que je fais. Ben, je regarde un livre, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces.
Ça, Camus, des gens qui... Le grand succès, si je peux dire, de Gaston Gallimard, qui a vraiment tenu ça sur ses épaules, C'est ce qu'il appelait un pacte avec l'esprit. Dieu sait ce qu'il entendait par là.
Mais alors,
d'ailleurs, avant de faire le procès du style, il convient beaucoup plus.
Regarde de tes yeux. Est-ce qu'il ne va pas convenir?
Ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des problèmes.
Mais ça voulait dire qu'on peut très bien rassembler des gens qui se haïssent, ne se parleraient pas, ne se serreraient pas la main. Vous imaginez, Malraux, Sartre, Aragon, Céline, enfin bon, des gens qui ne peuvent absolument pas, qui se seraient même condamnés à mort dans des circonstances exceptionnelles, et que malgré tout, l'un rentre par une porte, l'autre sort par une autre porte, et que malgré tout, ça s'appelle l'esprit. Est-ce que ce n'est pas étrange?
Je ne suis pas un éditeur. Je suis un homme qui, très jeune, s'était constitué une bibliothèque et qui souhaitait simplement la croître. Je n'ai, pour ainsi dire, publié que des livres que j'avais envie d'y mettre. C'est ce qui m'a orienté vers les jeunes écrivains. Il s'est trouvé que je les publiais aussi pour d'autres, tant mieux, mais cela n'avait jamais été le premier de mes soucis.
Selon vous, peut-on faire marcher une maison d'édition en ne publiant que les livres de jeunes écrivains inconnus?
Il faut aussi, bien entendu, publier des œuvres commerciales pour financer les jeunes auteurs. C'est pourquoi, si j'avais eu alors plus d'expérience, ou si une vie pouvait être recommencée, j'aurais plutôt choisi ou je choisirais la plomberie ou les produits pharmaceutiques pour pouvoir mieux ensuite publier ce qui me plairait et sous la forme qui me plaisait, sans souci commercial. Être épicier pour être mécène. Car pour moi, le seul plaisir du métier d'éditeur est dans la chasse, le dépistage, la révélation, bref, la découverte.
Moi, j'admire ça, parce que partout ailleurs, vous avez... Soit vous faites de l'édition, c'est clair, vous n'avez qu'à discuter avec n'importe quel Américain qui part pour la foire de Francfort, hello, business. Bon, vous faites de l'édition pour gagner de l'argent, sinon c'est absurde. Ou alors, vous faites de l'édition pour défendre telle ou telle ligne idéologique, politique, que ce soit à peu près clair, que chacun soit bien dans sa case. Chez Gallimard, c'est pas ça. C'est pour ça que c'est une incongruité majeure.
Monsieur Jean Paulhan, pourquoi la Nouvelle Revue Française reparaît-elle?
Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais cessé de paraître, n'est-ce pas? Tantôt Arlan, tantôt moi, nous recevons tous les mois et même toutes les semaines, depuis 8 ans, tant de manuscrits de jeunes auteurs inconnus et même de vieux auteurs très connus que, quand nous leur avons répondu ce que nous pensions, quand nous leur avons fait les critiques qui nous paraissent s'imposer, il nous reste encore une sorte de devoir. Nous les plaçons dans une sorte de revue imaginaire qui, évidemment, ne paraît pas, qu'on ne voit pas dans les kiosques, mais qui, tout de même, pour nous et pour quelques jeunes auteurs qui sont dans le secret, est aussi réelle qu'une revue que l'on voit un peu partout. On dit, les romanciers en particulier, disent volontiers que ce sont leurs personnages qui font le roman et qui n'ont qu'à les laisser aller. Et naturellement, le lecteur ne le croit pas en général. Mais pour nous et pour notre revue, c'est assez exact. Ce sont les auteurs de la NRF qui la font. Et dans la mesure du possible, nous les laissons aller.
Encore quelqu'un que l'on pourrait évoquer aujourd'hui, c'est Jean Paulhan tout de même, parce que tout ce que vous racontez là sur l'esprit Gallimard, ce souffle...
Bon, ça, c'est la NRF. Les grands personnages de la NRF, évidemment Gide, il y a eu Jacques Rivière qui est trop oublié.
C'est vrai.
Bordelais. Et Paulhan. Paulhan, ah oui, redoutable personnage, très intéressant, très, très joueur, très chinois. Je vous limite un peu, ne pas me brosser. Ah, je venais de publier, mais dites-moi,
Est-ce que vous feriez des notes critiques dans la LRF? Je dis non, monsieur, je ne crois pas. Non. Alors, est-ce que vous voulez des calissons? Non. Et j'allais le voir rue des Arènes, chez lui. Et là, c'était très, très, très étonnant. Parce que c'est l'art de l'ellipse, c'est le fait qu'une interprétation. Et en quelques mots, mais des mots qui parlent, qui disent quelque chose. Lacan était un peu comme ça, quoi qu'il soit aux antipodes l'un de l'autre. Et donc, j'ai, grâce à lui... Il voyait ce qui m'intéressait, donc c'est grâce à lui que j'ai lu Chesterton, l'orthodoxie par exemple, qu'il avait mis sous le... Et puis surtout des traductions de chinois. Il a compris que je m'intéressais à la Chine. Étant lui-même, même bizarre, chinois, égaré, comme ça. Non. Alors, manœuvrier, de correspondance de 10 ou 15 lettres par jour, ciblé. Un réseau de communication comme on en faisait autrefois. Le petit mot reçu de Paulhan était toujours merveilleux, très, très, très bon joueur, très bon joueur. Malheureusement, l'œuvre est très faible.
Et pourtant, à l'époque, il était considéré.
Comme le patron, d'une certaine façon. Comment dire. D'ailleurs, ça énervait beaucoup Breton. Paulhan avait écrit un livre qui s'appelait Braque le patron. Je réentends Breton me dire rue Fontaine où il habitait, c'est un endroit étonnant. Mais enfin, vous voyez comment ces gens parlent. Braque le patron. C'est le patron. Une réflexion d'anarchiste, tout à fait, tout à fait.
Breton, vous l'aimiez?
Ah oui. Ah oui, oui. Pas d'accord sur tout, mais... Ah oui, oui, oui. Très important, Breton. Très, très important. Parce que d'une fidélité à ses engagements de jeunesse, tout à fait extraordinaire. Un parcours absolument... magnifique, oui, l'amour, la liberté, la poésie. Mais aussi les prises de position de Breton. C'est une de mes plus grandes admirations, avec l'autre qui venait souvent dans le bureau de tel quel, que j'ai bien connu aussi. Alors lui, peut-être, c'est celui que j'ai admiré le plus au fond, parce que vraiment, oui, c'est Georges Bataille. Avec sa petite voix, c'est très comme ça, très douce.
Puis une liberté extraordinaire, non?
Ouh là là, oui. Magnifique, une pensée magnifique. Ouais.
Que son expression a plus d'importance pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu. Mais je fais, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et dès ce moment... c'est l'expression par son caractère sensible qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible. Il n'en resterait absolument rien. C'est seulement à partir du moment où je donne une forme qui pourrait passer pour passionnée, qui peut aussi passer pour noire. Mais je préfère dire que je suis un philosophe heureux parce que je ne crois pas être plus noir que Nietzsche. Il y a, à partir d'un certain moment, une nécessité pour la sensibilité de faire appel au trouble. On ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu. Mais malgré cela, n'est-ce pas, le trouble ne signifie pas le malheur, ne signifie pas le noir.
Le premier livre sorti, puis le deuxième. Alors, on a déjà montré comment c'est Jean Carole qui a commencé à publier votre premier texte. Mais votre arrivée dans le milieu littéraire a été quand même très remarquée. Ça a quand même fait son petit effet. quelques titres notamment. Je me souviens que vous racontez que Drame, par exemple, a été salué par Roland Barthes, que vous avez beaucoup connu et aimé par la suite.
Voilà.
Par Lacan également. C'était important pour vous. À quel moment devient-on écrivain? Lorsque l'on a la reconnaissance de ses grands aînés?
Non, à 5 ou 6 ans, comme je vous l'ai dit. Et après, il y a quelque chose qui fait qu'on rencontre, pas par hasard, des gens qui sentent que vous êtes dans ce désir-là, que vous n'allez pas l'abandonner, qui eux-mêmes le connaissent et ont envie d'apprendre votre langue ou de vous parler dans cette langue-là. Et donc ça crée des complicités, souvent artificielles et souvent aussi très profondes. Par exemple, Barthes a été un ami immédiat. Il a écrit sur mon livre qui s'appelle Drame, qui est paru en 1965. Il a écrit, réécrit, il a pris même tout un petit livre sur moi qui s'appelle Solaire s'écrivain, quand j'étais tellement décrié qu'il a jugé qu'il fallait...
Oui, parce qu'il y avait aussi des critiques en face, hein, oui. Qui vous ont affecté.
Vous avez droit à des rencontres qui sont très intéressantes, parce que soit vous avez en effet quelques interlocuteurs, quelques personnes qui, à cause de leur propre cheminement, à travers les aléas de la société, de l'histoire, de leur vie personnelle, et encore une fois de ce désir profond, qui est un désir qu'on appelle de littérature, mais ça va beaucoup plus loin, c'est un désir de vivre par tous les bouts à la fois, vous comprenez? Donc ça, ça va. Mais alors immédiatement, vous avez en effet une légion qui se renouvelle d'ailleurs, qu'on pourrait appeler les fonctionnaires de la société. Les fonctionnaires du social, ce que j'appelle les sociomanes, voire même les sociopathes, qui ne croient que à la vertu sociale, à la reconnaissance sociale, au primat du social. Si on commence comme ça, c'est perdu pour le désir et l'art, si on croit que c'est comme ça que ça marche. Donc ils ne croient, eux, qu'à ça. S'ils voient arriver un type dans mon genre, qui en plus n'est pas franchement difforme, ce qui aggrave la question, qui se pointe comme ça et qui il publie un petit livre comme ça, bon, et tout à coup les stars applaudissent, puis des gens très sérieux, enfin très sérieux, mais qui ne sont pas encore à leur place, parce que c'est ça qui joue à ce moment-là. Barthes, quand je le connais, le chemin vers le Collège de France va être très long. Foucault, quand je le rencontre, quand il vient à Cerisy pour une des cas de tel quel, et, il a publié 2-3 livres absolument importants, notamment sur la folie, mais le chemin vers le Collège de France est encore très long. Lacan, quand je le connais aussi, est complètement isolé, mis à l'écart. Brusquement, grâce à ce qui s'est passé en 1968, quand l'université a explosé, quand tout a été sens dessous, et ne jamais oublier que ça a commencé, non pas en termes marxistes classiques, par les infrastructures, c'est-à-dire là où le travail s'effectue, c'est-à-dire dans les usines. Si les usines ont suivi, mais l'étincelle qui a mis le feu à toute la plaine, comme a dit quelqu'un, est partie de Nanterre, des universités. Ça a été une stupeur totale, ça a complètement renversé le jeu, et puis on connaît la suite. Mais alors là, les fonctionnaires du social sont des gens, ils sont très très nombreux, qui croient qu'on arrive au mérite, à l'affluence, finalement à une sorte de comportement plus ou moins mafieux, et qui à ce moment-là, ceux-là vont précisément vous reprocher par la suite d'avoir le goût du pouvoir, le goût des médias, le goût de faire la loi dans l'édition, etc. Ce qui est, à proprement parler, grotesque. Donc ça les gêne beaucoup qu'il y ait comme ça quelqu'un qui se comporte comme s'il ne devait rien à personne.
Eh bien, c'est une époque où vous dites effectivement que l'idée de carrière littéraire ne vous effleure pas, vous poursuivez votre vie.
Mais elle ne m'a jamais effleuré en quelque sorte. Je ne fais pas une carrière littéraire. J'essaie de ne pas céder sur mon désir profond qui passe par là, mais enfin qui aurait pu passer par ailleurs si j'avais eu des dons pour la musique, ce que je regrette de ne pas avoir, la musique musicale, pas la musique des mots, ou autre chose, je ne sais pas, peut-être footballeur, mais enfin je ne sais pas.
Et puis, il y a Vous avez donc fait déjà paraître un ou deux livres. Et il y a, vous avez 22 ans, un déjeuner à la campagne chez votre éditeur qui invite autour de vous un juré Goncourt et un juré Fémina pour vous présenter.
Alors, il faut essayer de s'expliquer sur la question du coup de foudre. Voilà, comme on dit, hein. Donc, le déjeuner a priori barbant, il fallait aller à la campagne, il fallait voir un vieux crouton du prix Goncourt qui s'appelait André Billy, je crois bien. C'était organisé par l'éditeur qui voulait évidemment que son écrivain qui venait de publier, qui avait des articles déjà, Mauriac, Aragon, etc., ça doit se traduire dans l'Hexagone. Vous savez, la France est un pays absolument extravagant de ce point de vue. Bon, ça doit se traduire forcément par un prix littéraire, c'est soit le prix Goncourt, soit le prix Fémina. Bon, eh bien, apparaît à ce moment-là, elle n'est pas restée très longtemps au jury féminin, Dominique Rollin, qui est la dédicataire du Dictionnaire amoureux de Venise, avec l'expression « pour la grande, petite, jolie, belle beauté ». Voilà. Donc, d'une beauté absolument extravagante. Elle a à ce moment-là 44 ou 45 ans, elle en paraît 30, elle est en pleine forme, elle est ravissante, elle a un rire de gorge qui est absolument définitivement séduisant. Et voilà, alors ça s'est allé très vite.
Tellement vite que vous vous arrêtez là.
C'est allé très vite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était très audacieux de ma part, ça, si j'ose dire, j'avais l'habitude, mais très audacieux de sa part. C'est-à-dire que c'était encore tabou. Ça le reste, à mon avis, beaucoup. Une femme de 44 ou 45 ans et un jeune homme de 22 ans, ça rentre dans la catégorie incestueuse, chérie Colette et patati et patata. On a compris tout de suite qu'il fallait une clandestinité complète, sans quoi c'était le remue-ménage.
Vous l'avez décidé ensemble parce que...
Ah oui, bien sûr. Oui. Ça va de soi.
Mais ça s'est su assez vite ou pas? Parce qu'on connaît l'histoire par la suite. Chez Bernard Pivot, longtemps après, on a révélé votre identité parce qu'elle parlait de Jim constamment.
Oui, mais ça n'avait pas. D'accord. Ça n'avait plus d'importance.
Mais est-ce que le milieu parisien était quand même assez vite au courant, le milieu littéraire,
fréquentiez? Pas vraiment, parce qu'on a jamais. Je suis un assez bon stratège militaire. Et pour ce qui est de la clandestinité, je sais faire. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions très très vite, dans la mesure où une relation très intense doit immédiatement se prémunir contre l'intrusion sociale. Et elle ne peut être, s'il existe, que clandestine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transformer une relation intense en quelque chose de public. C'est ce qui m'arrivera lorsque j'épouserai Julia Kristeva. Mais l'intensité là demandait la clandestinité. Et donc ça a été d'abord l'Espagne, Barcelone, où on a eu une vie absolument d'enchantement. Le Barcelone de cette époque, le Barcelone qui ne dormait jamais, sauf un petit moment entre 5 et 6 heures du matin. Là, les Ramblas, la Rambla de las Flores, c'est là qu'on allait. Et donc, c'est la ville avec ses prostituées d'ailleurs magnifiques, j'allais de temps en temps, non pas tromper, mais décharger comme ça une sorte d'enthousiasme. Des femmes que j'ai aimées a toujours été, avec des variantes, sur le fond, hein, elles peuvent faire beaucoup de choses très différentes, mais c'est l'anarchisme. C'est l'Espagnol est une anarchiste, Dominique est sauvage d'une façon absolument exorbitante, elle ne cède pas sur son désir, elle est aussi
libre,
anarchiste.
Tellement libre.
Et Julia, qui a échappé au vampire communiste, elle sait de quoi elle parle quand elle veut tracer sa voix. Donc ça, c'est très important pour moi que le désir d'indépendance, d'autonomie, de liberté soit réciproque. Voilà, donc écoutez, vous prenez Venise et ça fait 40 ans à peu près
printemps et automnes avec Dominique, qui est vraiment pour moi la reine de cette ville-là.
Ouais. Et une image qu'on vous envie, je crois, en tout cas tous ceux qui écrivent et qui souhaitent écrire, de vous deux, vous tournant le dos, chacun à une petite table et des heures d'écriture.
Absolument, on a fait ça, soit l'écrivait sur un ponton dehors, soit lorsqu'il pleuvait, en effet, dans une chambre, chacun à sa table. Il y a une seule photographie qui peut rappeler ce genre de rapport, bien que ce soit absolument pas le même contrat, non, mais vous avez des photos de Sartre et Beauvoir écrivant chacun à sa table à Rome. Mais il n'avait pas à ce moment-là, il n'avait plus, si tant est qu'il l'ait jamais, une vie passionnelle intense. Hein, Beauvoir s'est très bien expliqué là-dessus, lorsqu'elle a choisi son complément physique chez son Américain.
Vous avez parlé de l'espagnol. On ne connaît que ce terme, l'espagnol, très importante aussi dans votre vie.
Une curieuse solitude lui est dédiée sous forme d'initiale, ESM. Elle s'appelait donc Eugenia, comme on dit en espagnol, Eugenia San Miguel. Drame est dédié à D, c'est Dominique. Ça fait aussi un autre Dominique. Bon. Et puis, vous avez un autre livre qui est dédié en caractère cyrillique. Et en cyrillique, vous lisez Julia, voilà, Julia. Voilà, cette espagnole, cette basque, parce que les basques sont très, très particuliers.
Quel âge avez-vous à ce moment-là ?
Les femmes basques. Alors là, j'ai 15 ans, alors. 15 ans, et elle 30, oui. Ce qui veut dire que j'ai été, alors, après, extraordinairement surpris en voyant à quel point les gens de mon âge étaient en retard d'information sur ce plan-là. Et le fait de rechercher, par exemple, des filles de mon âge à l'époque, j'ai évidemment un peu traîné comme ça, mais invraisemblable. Ce qui est intéressant, c'est qu'une femme soit un peu plus âgée, tout en n'en exagérant pas, mais enfin, oui, je crois que c'est une très bonne solution. Je recommande ça absolument, non seulement aux hommes de jeunes, mais aux femmes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité qui se crée là, très, très, très particulière. Les filles de mon âge, pour la plupart, c'était les bourgeoises, donc absolument infréquentables. Les surprises parties, les conneries comme ça, tout ça, bon, rien à voir. La bêtise, l'inexpérience physique, elles ne savaient rien faire. Vous comprenez ?
Pourquoi est-elle si importante, SM ? C'est aussi lié à l'histoire de l'Espagne, au lien fort qui, à ce moment-là, unit l'Espagne et votre région du Sud-Ouest, à la guerre d'Espagne aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui se construisent autour de ce personnage.
Bordeaux, et on passe la frontière et pour échapper à Franco qui vient d'arriver. Le Pays Basque a été un pays de résistance acharnée, comme les Catalans à Barcelone. D'où mon amitié avec Claude Simon, on en reparlera si vous voulez tout à l'heure. C'est-à-dire cette époque-là, pour lui, beaucoup plus âgé, et pour moi très très jeune, on a vu arriver en effet l'Espagne. Et l'Espagne républicaine, l'Espagne anarchiste, l'Espagne qui était en train d'être nettoyée par le fascisme espagnol. Et alors les Basques, ça c'est vraiment une population, je ne sais pas si vous avez connu des Basques ou des femmes basques. Par exemple, tout le monde se trompe en croyant que Martine Aubry est la fille de son père. Ce n'est pas la fille de son père, c'est la fille de sa mère. Elle est basque, la mère de Martine Aubry, et elle a un côté basque. Parce que ce sont des gens très tenaces, extraordinairement... très énergique, avec beaucoup, beaucoup de courage dans l'existence. Il y a un petit café à côté de Gallimard qui s'appelle L'Espérance, qui était tenu par les Basques, une femme absolument adorable qui s'appelle toujours, mais elle a vendu, elle n'est plus là. Du coup, tout s'est éteint. Mais ça dure, mais qui s'appelait Maïté, et pas forcément jolie, mais belle, vous comprenez, c'est tout à fait autre chose. Donc la beauté, c'est quelque chose, encore une fois, de sauvage, non soumis, d'élégant par soi-même, sans recherche, pas d'argent, peu importe. Une sorte d'élégance que vous trouvez alors portée à son comble dans le flamenco, dans la danse qui convient, c'est-à-dire cette extraordinaire... art qui vient, le duende, comme on dit en espagnol, c'est un art qui vient du sang, du fond du corps. Il y a une chanteuse admirable dont j'écoute souvent il faudra la mettre là pour faire entendre ça, qui s'appelle La Niña de los Peines, qui a été très célèbre dans les années 1920-1930. Et quand j'ai eu à faire un petit montage de film sur Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, j'ai mis La Niña de los Peines, parce que ça correspond au fait de savoir entendre, parce qu'il faut entendre la peinture, l'œil écoute, comme a dit l'autre, Claudel, l'œil écoute. Donc il faut savoir entendre ce qu'il y a dans un tableau. Et si vous n'entendez pas l'espagnol de Picasso, vous passez devant en ne comprenant rien. Si vous ne comprenez pas les prostituées magnifiques de la rue d'Avignon à Barcelone, qu'on appelle d'Avignon, mais c'est vraiment... Picasso, donc, a été... c'est une grande admiration pour lui, pour des tas de raisons, mais aussi celle-là, c'est quelqu'un qui a fait ses études au bordel, vous comprenez.
Yo le di un duro al barquero por pasar a trabarse. Y yo le di un duro al barquero y los amores.
La troisième femme, l'épouse, c'est oui. Julia Kristeva, vous l'avez dit, rencontrée en 66 à l'arrivée de Bulgarie.
C'est ça, elle est arrivée, elle l'a racontée elle-même avec 5 dollars en poche. Et donc elle était là, dans l'angle de sortie favorisé par la politique de De Gaulle à l'époque. Donc il y avait un petit angle de sortie. Elle était déjà une brillante universitaire en Bulgarie, à Sofia. Elle aurait voulu être astrophysicienne. Donc sa sœur était violoniste, elle a fait le conservatoire à Moscou, etc. Donc elle, de temps en temps, elle nous jouait du violon lorsqu'on était en vacances. C'était bien d'entendre un peu de Jean-Sébastien Bach par les fenêtres ouvertes. Voilà, elle arrive donc à Paris, comme ça. Et elle vient me voir parce qu'elle faisait thèse sur, je sais pas quoi, le nouveau roman ou les nouvelles tendances de la littérature française. Elle avait vu ma photo dans un journal communiste, donc elle trouvait que j'étais pour un communiste supposé. C'était pas si mal. Bon, bref, elle est venue pour m'interroger dans le bureau de Tel Quel, aux éditions du Seuil, à l'époque 27 rue Jacob, qui maintenant n'est plus 27 rue Jacob. Tout passe, tout casse. Et alors, la conversation s'est poursuivie, voilà.
Et elle dure. Et elle dure.
Oui, parce que dans des cas de ce genre, Sartre parlait d'amour nécessaire et des amours contingentes. Bon, donc, là, c'est du nécessaire avec quoi on ne peut pas discuter. Voilà. Donc, c'est un emploi du temps tout à fait spécifique.
Beaucoup d'admiration pour son intelligence, vous l'avez dit à maintes reprises.
Écoutez, j'ai un peu voyagé, c'est vraiment de loin la femme la plus intelligente que je connaisse. Oui. Donc, j'ai un ami, je ne dirai pas son nom parce qu'il est connu, qui me dit « Mais comment fais-tu pour aimer les femmes intelligentes ?» Eh bien, ça ne me fait pas peur. Au contraire.
On n'en saura pas plus, mais vous dites vous-même qu'on les retrouve partout, ces trois femmes, avec beaucoup d'autres, bien entendu. On parlera aussi
alors,
des autres.
Bien entendu, elles sont composées, recomposées, etc., dans la plupart des romans, avec d'autres.
Vous êtes pudique, vous n'aimez pas parler de cela, ou vous le faites volontiers, là, dans l'instant présent ?
Je l'ai fait déjà dans un vrai roman.
Mais vous n'aimez pas dire beaucoup plus.
C'est moi qui...
Sur ce qu'elles sont aujourd'hui pour vous, par exemple. Vous parlez de leur rencontre.
Mais écoutez,
et puis vous sautez sur 40 ans.
C'est toujours la même chose, ce sont des amours, c'est tout. Voilà. On a célébré en 2007 40 ans de mariage. Le mariage n'était pas pour. Mais enfin là, c'était une absolue nécessité pour des raisons vraiment... fondamentale. Julia avait 25-26 ans, elle est tombée malade assez vite, elle avait un passeport communiste, et je revois la difficulté qu'il y a eu à la faire entrer à l'hôpital à ce moment-là, parce que le passeport était rébarbatif. Donc elle s'appelle Madame Joyeux. Alors c'est très intéressant parce qu'on a trois noms. J'en avais deux, ça en fait trois. Hein. Ça fait Philippe Solers, Philippe Joyeux, Philippe Solers, Julia Kristeva, Julia Joyeux, et puis notre fils qui s'appelle David Joyeux. Donc vous voyez tout ça.
Et vous parfois, Philippe Kristeva ?
Alors, Philippe Christéva, ça m'est arrivé, Monsieur Christéva, ça m'est arrivé deux fois. C'est des étudiantes plutôt féministes, vous savez, américaines, qui arrivent à Paris, qui ont une ancienne adresse, qui sonnent. J'ouvre la porte, elle me dit « Are you Mr. Christéva ?» C'est très joli. Donc, Juliette, une vedette dans les pays anglo-saxons, elle a eu un prix... l'équivalent du prix Nobel en sciences humaines, le prix Holberg en Norvège, elle se déplace là, elle est tout de suite considérée. Et en effet, moi je suis là et parfois je la squatte, enfin je suis son mari gigolo. On a eu comme ça d'excellents moments à New York ou à Washington. C'est elle qui gagne l'argent, moi j'en ai pas beaucoup, j'arrive et je squatte. Et on est très très heureux parce que la vie aux États-Unis, à un moment donné, plus maintenant, mais enfin... était tout à fait amusante, parce que le problème, c'est de garder sa femme comme une maîtresse attirante.
Et qu'on admire.
Mais c'est très important.
Vous avez besoin d'admirer les femmes.
Besoin, non. Mais besoin, quand elles sont, selon moi, admirables...
Mais les femmes que vous aimez, vous les admirez.
Ben oui. D'abord, pour une chose très simple, c'est comment ont-elles pu me supporter. Donc je les admire d'abord pour ça.
C'est important aussi ces rencontres, ces conversations, les visites chez Francis Ponge dont vous avez déjà parlé, le contact, la conversation, le repas.
La conversation est une chose qui disparaît. La rencontre avec quelqu'un avec qui le fait de parler, d'écouter, est une sorte d'avancée. C'est très rare. De ce point de vue, le plus important pendant longtemps, c'était une dizaine d'années, c'était Ponge. J'allais le voir au moins une fois par semaine. Il avait été rue Laumont. J'apportais des disques de Rameau, qui était son musicien préféré. Et puis on parlait. Et finalement, on parlait toujours un petit peu, soit de ce qu'il était en train de faire, soit d'écrivain. Enfin bon, c'était toujours la même chose. Hein. C'est Mallarmé, c'est Rameau, c'est les poètes matérialistes de l'Antiquité. Le De Naturarium de Lucrèce, on parlait de ça. Bon, j'étais quelqu'un qui pensait ce qu'il était en train de faire. Hein. De ce point de vue, j'ai appris de lui. C'était un peu comme si j'allais à l'atelier, enfin, vous comprenez, de quelqu'un qui était déjà un maître fort isolé, fort bon. Oui, c'était des rencontres. C'était la même chose avec Barthes, je le disais à l'instant. Là aussi, c'était la même chose. On parlait de ce qu'on était en train de faire. Par exemple, une soirée, on allait dîner au Falstaff à Montparnasse. Bon, le rendez-vous était pris, je le prenais à la coupole. Il préparait son cigare, on dînait. Et le dîner, c'était, par exemple, il était en train de faire le SZ, le livre sur Balzac. C'était absolument épatant. Des rencontres, on fait de la musique ensemble, vous voyez. Le violoncelle, violon, piano, bon... Avec Lacan, même topo. C'est-à-dire que j'allais le chercher à la fin de ses séances en fin de journée et on traversait la rue, on allait dîner à la calèche et j'ai fait un portrait de Lacan en type extraordinairement généreux et sympathique alors qu'il a passé pour quelqu'un d'odieux et d'arrogant, etc. Pas du tout, c'était là aussi, on ne parle pas pour ne rien dire. C'est le contraire de la non-conversation, c'est-à-dire de l'échange d'informations, ou plus exactement, si vous voulez, de l'échange de pur narcissisme, c'est-à-dire, autrement dit, la façon qu'a chacun ou chacune de faire sa publicité à toute allure devant l'autre. Voilà. Là, on est engagé dans quelque chose de pas commun, de singulier, de désir, et du langage. Lacan était épatant parce que... ça résonnait d'une certaine façon. Je n'ai pas été en analyse du tout avec lui. Il l'aurait souhaité, d'ailleurs. C'était intéressant. Mais non. Un autre qui était comme ça, c'est Poulenc, quand même. Hein. C'est-à-dire, au moindre cliché qui serait arrivé, hop, là, c'est le côté un peu zen, un peu chinois. Je me rappelle un jour, on déjeunait ensemble avec un garçon, d'ailleurs, très plein de talent. On sort, il faisait très beau. Et le type dit... Ah, mais il fait vraiment très très beau. Et Lacan, et Poulenc, vous voyez, je fais le lapsus, c'est intéressant. C'est un peu le même genre d'attitude. C'est-à-dire, on ne parle pas pour ne rien dire. Il n'y a pas de temps mort dans la parole. Ouais, il fait très beau. Et Poulenc dit, ah bon, vous trouvez qu'il fait si beau que ça? Autrement dit, dites-moi quelque chose d'intéressant.
On en parle au passé de ça, ou quand même on est encore capable aujourd'hui de moments de conversation aussi intenses?
Debord s'en plaint beaucoup. Il dit bientôt seront morts tous les gens qui savaient de quoi il s'agissait. Je crois qu'en effet, c'est en train d'être complètement détruit.
Et pourquoi ?
Communication, électronique, pas le temps, SMS, texto. La conversation, ça consiste à parler en tête à tête.
Puis on se rend visite aussi, ce qu'on ne fait plus beaucoup.
Voilà.
Peut-être.
Tout ça n'existe plus. La conversation était un art suprêmement français, donc 17e, 18e, etc. L'art de la conversation, il y avait, je ne parle même pas des salons, c'était constant. Donc la littérature, notamment en français, a été aussi un très grand art de la conversation. Donc comme le français va très mal et s'achemine vers une langue morte, quasiment. Donc, pourquoi pas? D'ailleurs, ça sera une splendide langue morte. On pourra la vivifier à chaque instant. Alors, si personne n'en veut, moi, je prends.
Un été avec Philippe Solers, une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son Frédéric Quérou, mixage Olivier Dupré. Et nous retrouverons Philippe Solers à la même heure, samedi et dimanche prochain. Samedi 68, une histoire d'amour. Dimanche, de tel quel à l'infini, la vie des revues.